Bonsoir à toutes et tous. On va lire deux passages, un dans le psaume 69, psaume 69, on va lire quelques versets. Psaume 69, on va lire à partir de verset 6. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est qui m'attire l'opprobre? Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui ont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais j'adresse ma prière au Éternel. Que ce soit le temps favorable au Dieu par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. C'est un psaume de David. Ce psaume est mentionné au moins 7 fois dans le Nouveau Testament, qui contient la prophétie concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Ça parle de... surtout ce soir, nous allons prendre uniquement ce verset 9 qui dit « Car le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison me dévore. Le deuxième passage, nous allons prendre en Jean, Évangile de Jean, chapitre 2. Évangile de Jean, chapitre 2. On va lire à partir de verset 13 jusqu'à 22. Pour mieux comprendre cette verset, nous allons prendre ce passage. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, les brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples souvinrent qu'il est écrit, « La zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple en 3 jours. » Je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, les ailes de ta maison me dévorent. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous allons certainement, je pense que si nous sommes honnêtes devant Dieu, nous allons poser des questions par rapport à nous-mêmes. Le Seigneur, il a dit ça, le zèle de ta maison me dévore. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est cette zèle, nous comprenons mieux quand Jésus chasse les vendeurs du temple. On comprend mieux ce que David il a dit dans son psaume 69. Quel était le niveau de son dévouement à la volonté de Dieu? Combien Jésus était dévoué ou combien zèle il avait pour faire la volonté de Dieu, pour Dieu. Le zèle, Jésus, il avait pour Dieu. Jésus commence à répondre à cette question ici dans Jean 2. Qu'est-ce que cela dit de son zèle pour la maison de Dieu aujourd'hui? Oui, quand il est venu sur cette terre, il a chassé tout ce qu'il ne devrait pas être dans le temple de Dieu. Il a chassé toutes ces choses. Il a nettoyé le temple dans une façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que le zèle elle n'est pas là aujourd'hui? Le zèle que Jésus il avait quand il était, c'est qu'est-ce que c'est le temple de Dieu aujourd'hui? Jésus est allé volontairement à la croix pour la maison de Dieu. Et nous sommes la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes appelés comme la maison de Dieu. Regardez avec moi en Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Ce que Paul il appelle, Paul il dit aux Éphésiens, les chrétiens à Éphèse. Hébreux 12, 2, je vais lire pour vous. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, le zèle pour la maison de Dieu a poussé Jésus jusqu'à la croix. Et donc, quelle manière il a approché de cette croix, un instrument cruel d'ignominie, et parce qu'il avait, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et de la même façon, on peut voir le zèle que l'apôtre Paul il avait, le zèle pour Dieu. Il avait, nous savons très bien que Paul il était très zélé, même en tant que un juif, un pharisien, il était très zélé pour Dieu. Il faisait les choses avec une sincérité religieuse. Quand il a persécuté l'église de Christ, il l'a fait avec le zèle, il dit dans son épître. Hein. Et regardez avec moi en acte 20, livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais lire à partir de verset 28 jusqu'à 38. Prenez donc garde à vous-même et tout le troupeau sur lequel le Seigneur, Saint-Esprit vous a été établi évêque pour être l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler la parole du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils s'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage et l'accompagneront jusqu'au navire. Si, dans ces versets, nous voyons combien de zèle Paul il a montré dans le ministère, dans son ministère. Combien de zèle il a montré pour l'église de Dieu. Combien de zèle il a montré envers les saints. Il explique toute sa vie. Nous avons vu ce passage il n'y a pas longtemps avec le frère Albert. Et on voit combien de zèle il avait. On peut. J'espère que nous avons tous le zèle pour le Seigneur. Et c'est quoi le zèle? Avoir une passion. Est-ce que nous sommes passionnés pour l'Église de Christ? Et quand on dit Église de Christ, on peut penser à l'Église universelle pour notre confort. Confortablement, nous pensons à l'Église universelle souvent. Mais l'Église de Christ, c'est l'Église locale. Quel zèle avons-nous pour l'Église de Christ, l'Église locale? Parce que si vous dites que j'appartiens à l'Église du Christ, l'Église universelle, très bien, mais quand vous êtes malade, vous appelez pas l'Église universelle. Et personne de cette Église universelle va venir pour visiter. L'Église locale, c'est là que le Seigneur nous a placés. Quel zèle nous avons-nous pour l'Église de Christ? Mais le psalmiste il dit que le zèle de ta maison me dévore. Mais nous avons le zèle dans beaucoup d'autres choses. Nous avons le zèle pour beaucoup d'autres choses dans notre vie. Nous devrions nous sonder pour répondre à nous-mêmes. Avons-nous le zèle pour la maison de Dieu? La maison de Dieu, ce n'est pas la structure. Bien sûr, on a vu dans ce verset en Éphésiens 2, nous avons vu, c'est les gens de la maison de Dieu, c'est l'Église, c'est les croyants, c'est le corps que Christ a formé. C'est le corps que Christ pour lequel Christ a donné sa vie. Et le Seigneur, il avait le zèle pour son Église. Hein. Romains 5, 8 à 9, je vais lire. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et peut-être nous trouvons l'Église locale avec beaucoup d'imperfections. Certes, moi je suis avec beaucoup d'imperfections. Donc personne ne peut nous exempter de cette misère sur cette terre que nous sommes des hommes et des femmes imparfaits. Nous avons des problèmes. Mais Christ a donné sa vie pour nous quand nous étions encore pécheurs. Nous devrions imiter à Christ dans son amour pour son Église. Et nous voyons le zèle pour la sanctification. Nous devrions avoir le zèle pour être pur. Nous devrions avoir le zèle pour être irréprochable. Ce n'est pas facile, je sais, mais le Seigneur nous donne le moyen pour nous sanctifier par le sang de Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le Seigneur, il a divisé un moyen puisqu'on peut nous purifier. Est-ce que, en tant qu'individu, en tant que des personnes, nous devrions avoir le zèle pour garder le corps de Christ dans la sainteté? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui s'appelle Achan. Il a commis le péché, mais le péché devrait être ôté du camp. comme le levain qui peut faire pourrir toute la pâte. L'Église, elle est de la même façon. Un seul péché dans l'Église, il peut contaminer comme le virus, hein? Mais aujourd'hui, nous parlons plus de la contamination par ce virus COVID-19. Hein? Et une seule personne contaminée, l'établissement est fermé. Aujourd'hui, apparemment, il y a des établissements scolaires et il n'a pas pu ouvrir parce qu'ils ont trouvé la contamination. Le péché est pareil. Donc, ça devrait commencer avec moi. Moi, je devrais me purifier par le sang de Christ. Puisque l'Église, elle peut. Parce que bien souvent, on voit l'imperfection dans notre communauté, dans notre Église. Imperfection dans la vie de nos frères et sœurs. Mais ça devrait commencer avec moi. Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais on a le remède pour ce problème. Dieu, il a donné le remède pour ce problème que nous avons. Mais c'est à nous d'approcher de Dieu avec cette zèle pour vivre une vie pure pour Dieu. Et Jésus est notre exemple. On va lire un autre passage de 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, versets 20 à 25. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés et son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc, Jésus, il a montré l'exemple pour nous, et il y a plein de choses que ce passage nous dit, hein, et comment on peut vivre avec le zèle pour le Seigneur. Mais si nous vivons avec une passion notre vie chrétienne, si nous vivons avec une zèle pour le Seigneur, je pense que nous pourrons supporter beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses que on peut rencontrer, des problèmes on peut rencontrer au sein de l'Église. Hein? La question c'est quel zèle nous avons? Ou avec combien de zèle nous vivons notre vie chrétienne? Combien de zèle nous vivons notre vie chrétienne au sein de notre Église? Le Seigneur Jésus l'a dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et est-ce que nous avons le zèle ou allons-nous cacher notre foi en toute sécurité? Est-ce que notre zèle est visible alentour de nous? Est-ce que notre zèle est visible pour des autres frères et sœurs? Mais comme des autres qualités sont contagieuses aussi, le zèle aussi est contagieux. Quand vous voyez un frère ou une sœur avec beaucoup de zèle, je pense que des autres ont envie de faire les choses pareil comme elle, pareil comme ce frère ou cette sœur. Comment exerçons notre zèle pour le Seigneur au sein de l'Église? Mais on peut, il y a, je pense que c'est Élie qui disait que j'ai exercé le zèle pour le Seigneur et je suis toute seule. Mais le Seigneur, il nous a donné une famille, il nous a donné une communauté avec, avec qui nous devrions vivre avec une zèle pour le Seigneur. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. On peut croire, on peut mettre notre foi, mais parfois nous avons honte. Mais qu'est-ce que des autres vont penser de nous? On a peur de ce critique. Ah, il est très zélé, mais ça va pas durer. Mais quand nous avons la passion, quand nous travaillons avec une passion, et vraiment, ça devrait continuer. C'est pas une fausse zèle, mais un vrai zèle pour vivre pour le Seigneur. Et pour exercer notre zèle, nous avons besoin des talents aussi. Le Seigneur nous a donné le talent. Et qu'est-ce que nous allons faire avec nos talents? Allons-nous enterrer nos talents? Mais je pense que c'est sûr, dans cette église, il y a beaucoup de talents. Le Seigneur a donné le talent pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec les talents que le Seigneur nous a donnés? Vous connaissez ce parabole en Matthieu 25. Je vais lire vite fait. 23-30. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Aussi, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et il sera donné-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans la ténèbre du dehors où il aura des pleurs et des rincements des dents. Donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous a confié. Si le Seigneur vous a confié les talents, mais il faut reconnaître notre talent, et il faut poser la question, comment je peux me rendre utile pour le Seigneur? Comment je peux rendre utile pour le Seigneur? Avant de poser cette question, je pense qu'il faut être disponible. Ce n'est pas dans l'église, chacun il a envie de faire quelque chose ou le faire les choses comme il veut. Mais le plus nécessaire, ce qui est plus nécessaire, c'est d'être disponible. Donnez-moi, nous voyons que comme David il a écrit cette psaume 69. Et on peut le trouver dans la vie de David quand il était un jeune homme, être zélé comme David. Vous savez, quand il y avait la guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël, le vaillant soldat, il était dans le front de guerre. David, il vient pour apporter la nourriture pour ses frères. Et son frère Eliab, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Regardez ce que David il dit, je pense que c'est 2 Samuel chapitre 17. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille et que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas, je peux pas parler ainsi ?» Pardon, je ne lis pas correctement. David, avec beaucoup de zèle, hein, parce que plus tard, dans ce chapitre, nous voyons que le zèle David il avait pour le Seigneur. Il pose la question, mais qui est ce Philistin pour parler ainsi de notre Dieu vivant, de l'Éternel ? David il avait cette zèle en tant qu'un jeune homme. Même plus tard dans la vie de David, l'arche de l'Éternel, il est dans la tente. Et moi, je vis dans la maison faite avec du cèdre. Vous voyez le zèle de David? Il avait toujours le zèle pour le Seigneur. Mais parfois, toutes ces choses-là, ça nous fait penser, est-ce que je suis zélé pour Dieu? Ça ne suffit pas de dire que je suis zélé. Mais quelle manière nous manifestons notre zèle pour le Seigneur? Et le zèle de ta maison me dévore. Et en Romains chapitre 10, les versets 1 et 2, on va terminer avec celui-là. Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous voyez? Et si vous dites que vous avez le zèle pour le Seigneur, il faut l'intelligence. L'intelligence vient de la parole de Dieu. Premièrement, pour avoir l'intelligence, il faut lire, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole prêchée. C'est ainsi que nous atteignons l'intelligence. Mais on peut dire que j'ai beaucoup de zèle, mais souvent, le zèle sans intelligence, ça peut être très dangereux aussi. On peut avoir beaucoup de zèle, mais si on ne fait pas les choses selon la volonté de Dieu, ça peut être dangereux, très dangereux. Souvent, c'est néfaste pour la vie de l'Église. Mais on peut arrêter avec cette question, mais est-ce que je suis zélé pour le Seigneur? Mais si nous avons le zèle, montrons cette zèle dans notre assistance déjà, de toutes les réunions de l'Église, tant qu'on peut, bien sûr. Et en vivant notre amour pour le Seigneur avec tous nos frères et sœurs, le Seigneur a payé un grand prix pour cette Église, pour l'Église, pour son corps. Il a payé un grand prix. Et il n'a pas hésité devant la croix. C'est avec le zèle pour le Père, pour faire la volonté de son Père, il était jusqu'au bout. Il a accompli tout sur la croix. Mais est-ce que nous reflétons à cette qualité qui était en Jésus-Christ? On ne peut pas être autrement. Soit on est passionné pour à vivre pour Christ. Si on ne peut pas partager cette passion avec le monde et notre passion, si on est passionné, est-ce qu'on est passionné pour vivre pour Christ et pour œuvrer pour lui? Je pense que dans les passages que nous avons lus, il y a certainement beaucoup, beaucoup de questions vont être soulevées. Et nous devrions sincèrement répondre à toutes ces questions en tant que des personnes. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre remercions pour ta parole qui nous interpelle. Seigneur, oui, c'est vrai, parfois on peut être zélé comme l'apôtre Pierre, mais peut-être sans intelligence et sans amour. Seigneur, aide-nous à être zélés pour toi. Seigneur, nous n'avons qu'une seule vie pour vivre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas partager cette vie avec d'autres choses. Nous voulons vivre pour toi. Seigneur, bénis ton Église. Bénis chacun d'entre nous présents ici. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là, Seigneur, que cette zèle peut être dans le cœur de chacun. Aide-nous à vivre pour toi et à toi seul. Amen.